en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Messieurs, qui avaient des manières bien à vous d'accueillir les plus rétifs et qui savaient oublier leur turbulence, parfois leur blasphème, vous n'ignorez pas que je vous arrive de plus loin qu'il n'est coutume et qu'il m'aura fallu accomplir un parcours anormalement long avant qu'il ne me vienne, à la surprise de plusieurs, l'idée de solliciter vos suffrages. Le fait que vous me les ayez accordés n'a probablement pas été pour d'autres, parfois pour les mêmes, un moindre sujet d'étonnement. C'est par ces mots, et avec un humour qui n'était pas la moindre des qualités de ce brillant esprit, que Roger Caillou a débuté le 20 janvier 1972 son discours de réception à l'Académie française. La réception sous la coupole de celui qui avait été l'un des chantres du surréalisme, avant d'ailleurs de s'en détourner rapidement, avait, il est vrai, de quoi surprendre cette vénérable institution. L'intéressé ne se le cachait d'ailleurs pas lui-même, qui expliquait à ses nouveaux confrères, je cite, « Si surréalisme et académie sont mots qui jurent encore d'être assemblés, chacun connaît votre souci constant de ne jamais tenter de figer la littérature française en un point défini de son histoire, mais de la reconnaître qui change. Et pourtant, quand on y songe, quel parcours pour le jeune Rémois né en 1913 dans une famille de petite bourgeoisie, élève au lycée de sa ville sous l'autorité de Georges Bidault, dont il devait par la suite partager le même amour de la France libre. » Ainsi qu'il l'expliquait lui-même le jour de sa réception parmi les 40, Roger Caillois a longtemps voué, dans son adolescence, une véritable haine contre la littérature, dont il prévoyait et souhaitait, naïvement, la disparition prochaine. Aussi s'était-il lancé dans d'étranges, extrêmes et successives entreprises qui ne le destinaient guère à siéger un jour à l'Académie, revêtu, ainsi qu'il devait lui-même le dire, d'un costume de scarabée qui n'était au demeurant pas pour déplaire à un esprit longtemps fasciné par les mœurs, les parures et les déguisements des insectes. Roger Caillois est en fait assez sévère avec lui-même parce que, dès cette intransigeance de jeunesse dans laquelle il reconnaît que la passion avait plus de part que de lucidité, se trouvaient déjà réunis, sans doute à son insu, plusieurs éléments qui devaient plus tard se révéler décisifs. En premier lieu, une ferveur pour le langage, entourée de soins que Caillois lui-même définissait comme quasiment philatéliques. Près de 50 ans plus tard, en prenant place au troisième fauteuil, laissé vacant par la mort du grand helléniste Jérôme Carcopino, Roger Caillois avait en fait un autre motif de se réjouir de devenir l'un des 40. En effet, ce sociologue, cet historien de l'art, cet entomologiste, n'a cessé de s'inquiéter de la raréfaction, dans le monde, des corps constitués et autonomes, officiels et indépendants, tels que continue aujourd'hui, et pour son plus grand honneur, d'être l'Académie française. Lui-même s'exclamait ce 20 janvier 1972, jour de sa réception, « Je vois partout, en effet, s'apesantir et augmenter, ici de manière pudique et réticente, là de façon proclamée et impitoyable, les pressions anonymes et aveugles qui, depuis toujours, procurent aux sociétés leur seconde et redoutable nature. L'évolution des techniques, celle de l'économie, l'accroissement des charges, des responsabilités, des ambitions de l'État, de ses moyens même de convaincre et d'asservir, ne favorisent pas, loin de là, les conditions mentales du libre exercice de la pensée. » C'est à René Huyck, directeur de l'Académie, qu'il revenait d'accueillir Roger Caillois sous la coupole ce 20 janvier 1972. Il le faisait en insistant sur la multiplicité des domaines sur lesquels s'était portée tout au long de sa carrière l'intelligence de Caillois. « Vous êtes, monsieur, lui disait-il, un des esprits les plus curieux de notre temps, des plus autonomes, des plus rétifs, à des entraînements et pourtant vous n'ignorez rien de ses ouvertures. Vous déroutez bien des esprits qui, ayant la faiblesse du classement, ne savent où vous situer, à gauche ou à droite, en avant ou en retrait, ni même dans quel genre, car il y a en vous tout autant du poète que du savant, ajoutait encore René Wigme. Pour l'Académie, Caillois fut indéniablement une recrue précieuse, mais il est tout aussi vrai que son entrée parmi les immortels en supprit plus d'un, tant son parcours faisait de lui un homme inclassable et, a priori, opposé à l'idée même d'Académie. Cet ancien élève de Mauss, de Daumézil, fut aussi un élève de Kojève, le théoricien de la fin de l'histoire, un concept qui a connu un regain d'intérêt au moment de la chute du mur de Berlin. Caillois s'était inscrit à la section des sciences religieuses à l'école des hautes études avant de créer en 1938 le collège de sociologie avec Michel Léris et Georges Bataille. Entre-temps, il fut tenté par le surréalisme, mouvement dont il devait ensuite se démarquer tout à fait. Pour Marguerite Yourcenar, d'ailleurs, première femme élue à l'Académie française et qui le fut précisément au fauteuil de Caillois, le surréalisme, s'il fut vite traversé par Roger Caillois, l'a tout de même marqué durablement. Elle résume d'ailleurs cette aventure parfaitement dans son discours de réception sous la coupole le 22 janvier 1981, je la cite. « On voit ce qui attira Roger Caillois dans ce poétique tourbillon que fut le surréalisme. » Révolte contre des pratiques littéraires sclérosées liées à une image conventionnelle du monde. Elle ajoute ensuite que cet homme de lettres, au sens formel du terme, s'est vite aperçu qu'un système poétique se dissociant radicalement de la tradition, à l'aide d'images fracassantes et de phrases fracassées, battait en brèche certaines des valeurs intellectuelles qui lui importaient le plus. De son adhésion momentanée au surréalisme, Caillois lui-même a confié un jour qu'il ne s'agissait véritablement que d'une surenchère, d'un concours de définitions délirantes et ornées, dont le brillant faisait le mérite et dont on n'attendait rien d'autre qu'un éblouissement passager. On peut penser qu'un homme aussi dépris des modes que l'était Caillois a vite compris que ce qui semblait encore une révolte aux yeux de ses contemporains les plus naïfs n'était en fait que pure routine. Un temps harassé par le marxisme et par le freudisme, Caillois analyse l'un et l'autre avec la même rigueur qui caractérise la méthode de cet entomologiste. Caractérisant d'ailleurs l'approche de Caillois, Yourcenar écrit ainsi « La même rigueur d'un esprit capable non de penser à contre-courant, ce qui est relativement facile, mais de trouver les courants qui mènent à la mer libre, lui fait distinguer entre la sincérité et la vérité. Elle lui inspire ses réfutations de ce qu'on pourrait appeler les sciences dogmatiques, alliance de mots, je l'avoue, paradoxale, mais qui définit, hélas, toute science passant de la recherche désintéressée du vrai à l'obtuse assertion d'un dogme. Le marxisme et le freudisme ont été l'objet de ces justes attaques parce que leur triomphe même avait contribué à les pétrifier. » Et Marguerite Yourcenar d'observer que Caillois s'est élevé contre leur casuistique analogue à celle de tous les théologiens des religions intransigeantes. À la fin des années 1930, Roger Caillois est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages qui traduisent un attachement profond aux différentes formes du sacré. C'est ainsi la publication du mythe de l'homme, puis de l'homme et le sacré. Et c'est à l'occasion d'un séjour en Argentine où il est venu donner des conférences que la guerre le surprend. Il choisit alors de demeurer en Amérique du Sud et d'y faire entendre par tous les moyens la voix de la France libre. Pour cela, il crée une revue baptisée « Les Lettres françaises », il ne faut pas confondre avec celle qui devait être créée à la même époque en France, dans la clandestinité, par Decour et Pollan, où le rejoignent bientôt Bernanos, alors au Brésil, Jules Superviel, Saint-John Perse et Gide. Devenu chargé de mission du comité de libération, Roger Caillois le devient ensuite du gouvernement provisoire qui le rappelle à Paris à la fin de la guerre. De ce long séjour en Argentine, Cailloua rentre avec la volonté de faire découvrir aux Français des écrivains tels que Borges ou Neruda. Et il crée pour cela la fameuse collection La Croix du Sud chez Gallimard. De cet engagement en faveur de la France libre, c'est une fois encore Marguerite Yourcenar qui en parle le mieux, je la cite. Les années de la Seconde Guerre mondiale et celles qui l'ont immédiatement précédée ou suivie ont opéré pour certains d'entre nous une sorte de reconversion. Durant la trouble avant-guerre, en présence des forces du mal de plus en plus déchaînées, il semblait à un esprit comme Cailloua que la prise de parti en faveur de la raison s'imposait. Mais il y eut l'exil, surtout dans un pays neuf, situé à d'immenses distances. Faut-il considérer l'après-guerre comme une rupture chez Roger Cailloua par rapport à ses activités précédentes ? Il n'en reste pas moins que la seconde partie de sa vie porte le fondateur du collège de sociologie, l'ancien surréaliste et le passionné de sacré, à exercer son intelligence sur des domaines aussi variés et étonnants que le monde des insectes ou encore la minérologie. Cailloua, l'entomologiste, développe soudain ce qu'on a parfois appelé une véritable mystique de la matière, se passionnant tour à tour pour ses pierres à masure, ainsi qu'à la Renaissance on appelait ces marbres de Toscane dans lesquels semblent parfois se refléter des estuaires mystérieux et des villes inconnues, ou pour les diaprures des ailes de papillons. Ce faisant, il devenait le disciple d'Orphée, mais aussi celui de Maître Eckhart, qui affirmait « La pierre est Dieu, mais elle ne sait pas qu'elle l'est, et c'est le fait de ne pas le savoir qui la détermine en tant que pierre ». Roger Cailloua est mort le 21 décembre 1978. L'Académie française, par la bouche du professeur Étienne Wolff, lui rendit alors un hommage solennel le 11 janvier de l'année suivante. Roger Cailloua, exprimait ainsi Étienne Wolff, était un homme d'une haute culture, d'une compétence si étendue qu'on n'en connaissait pas les limites. Il passait avec aisance du rêve au réel, du profane au sacré, de la mythologie grecque à la littérature sud-américaine, de l'atome aux molécules, aux minéraux, aux insectes, aux méduses, à l'organisation des formes et des sociétés. Il n'est pas un domaine de la pensée qui lui ait été étranger. Il est même peu d'hommes qui se soient plus rapprochés de ce que peut être un pur esprit. Bien qu'ayant fréquenté toutes les écoles, celles du passé, du présent et du futur, car il fut même surréaliste, Roger Cailloua n'était affilié à aucune. Il était libre, indépendant, disponible. Il était classique par le style et la culture. Rappelons que le fauteuil qu'il occupait, le troisième, fut pourvu en 1981 par Marguerite Yourcenar, qui devenait ainsi la première femme à entrer à l'Académie française, où elle fut reçue par Jean d'Ormesson. Avant de nous quitter, nous allons entendre un passage d'un ouvrage que Cailloua a publié en 1944 chez Gallimard, intitulé « Les impostures de la poésie », passage qui est lu par Fernand Guillot.
Ce temps aura vu la poésie se vouloir tout ce qu'elle n'est pas, magie, mystique ou musique. À mesure qu'elle se détache du vers, elle s'attribue un destin à la fois grandiose et imprécis, comme de constituer un instrument privilégié de connaissance, une variété d'expériences mystiques ou quelque autre source de révélations prodigieuses et irremplaçables. On l'oppose vite à la littérature et à la versification dont les règles, les conventions, les artifices paraissent autant de gênes et de trahisons très capables d'altérer, si l'on y prend garde, l'intégrité du sublime message qu'elle a mission de transmettre. Aussi se débarrasse-t-elle de toute entrave et presque de toute matière. Voici bientôt la poésie moderne, toute de son ou toute d'image. Le reste en est banni, et surtout l'expression des sentiments et des idées. On pourchasse ces grossières impuretés dont la présence, dit-on, empêche la poésie d'atteindre sa parfaite et idéale transparence. On voit défendre avec ardeur cette position. Elle a ses dévots, et nombreux. Et quoique l'intelligence et l'analyse aient une part dans leurs écrits, on s'aperçoit vite qu'ils exposent leur raison dans un esprit religieux, parfois même avec un langage emprunté à la théologie. Par exemple, ils parlent, et fort bien, des tentations dont le poète doit garder son œuvre, du monde, c'est-à-dire de l'anecdote, de la chair, ou de soigner la forme avec trop de complaisance, du démon, ou de l'envie de faire servir la poésie à toute autre fin qu'elle-même, science, morale, politique, religion, etc. Encore n'y a-t-il là qu'analogie, rhétorique, qui ne démontre en aucune façon l'existence d'une foi véritable, mais indique seulement qu'il fut ici commode d'employer un certain vocabulaire. C'est à d'autres signes qu'on reconnaît que ces pieux auteurs considèrent l'objet de leur étude comme doué de divines et ineffables vertus. Point de doute qu'ils ne soient convaincus que la poésie existe en dehors des poèmes, comme une mystérieuse et pure essence que les mots, si heureux qu'on les imagine, ne peuvent que maladroitement exprimer. Il ne constitue pour elle qu'un vêtement équivoque qui la manifeste en la trahissant. Par-delà les langages périssables et divers dont les poètes sont contraints de se servir pour écrire leurs vers, il est un idiome éternel qui leur est commun, qui défie toute traduction, dont ils sont les interprètes malhabiles ou inspirés, et qui seul constitue ce qu'il faut appeler poésie.